La CVRP, Cinéma, Vidéo, Radio, Production, vous présente une cassette OB.
L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre. Passion intérieure. Scénario original de Julien Jean-Pierre. Mise en scène, production Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Mieux.
La voiture s'est arrêtée. On entre dans un commissariat tout aussi lugubre que l'autre. Tout le monde va à la banque. Un flic dit : je vous amène un jeune qui est entré au lycée Henri IV. Le flic à la banque demande à Pierre : tu t'appelles comment ? Pierre donne son nom. T'as des papiers ? Pierre lui tend son portefeuille avec les articles de journaux. L'homme regarde tout ça. Tu es de Lyon ? Tu as fugué ? Oui. Pourquoi t'es allé au lycée Henri IV ? Comme ça ? Pierre se sent mal. L'homme lui dit : t'as pris des cachets ? Oui. L'homme ne dit rien, ne cherche même pas à savoir ce qu'il a pris et s'il a besoin de service, d'un service d'un médecin. Un jeune de 17 ans qui a pris des cachets, on ne s'en occupe pas. Bien sûr, il a osé demander à voir un fils de riche. Le fils lui demande : tu es allé au lycée en 4, pourquoi ? L'homme regarde les papiers. Pierre se dit que tout le monde va connaître son secret. Oui. Tout le monde va connaître son secret. L'homme regarde les papiers. Tout le monde va connaître son secret, même sa famille. Mourir, mourir. De toute façon, il est foutu. Le père dit : il est venu voir mon fils. Et pourquoi ? Je sais pas. Le fils soupire. Et dit : bien, le commissariat va vous recevoir. Va vous recevoir. On fait asseoir Pierre sur un banc entre deux flics. Il a sommeil, la langue pâteuse et cette odeur dégueulasse du médicament. Au bout d'un moment, on mène Pierre et tous vers le commissaire qui se trouve à l'étage. C'est lugubre. On fait asseoir Pierre sur un banc et on fait rentrer le père dans le bureau du commissaire. Dans le bureau du commissaire. Pierre entend le père dit : mon fils a fait des films, dont celui-là, et il reçoit de nombreuses lettres à cause de ça. Des personnes s'imaginent qu'il est comme l'enfant du film. J'ai demandé à mon fils s'il connaissait cette personne. Il m'a dit que non. Avant le tournage et durant le tournage, mon fils a été surveillé par des psychologues. Et il n'a eu aucun trouble par ce rôle. Mais les gens s'imaginent des choses. Ils croient qu'il vit d'une façon autre. En réalité, il vit comme un enfant normal. Ce jeune homme n'est pas normal. Il a quelque chose. Enfin, lui a réussi à aller jusqu'ici. Les autres n'ont pas encore. Et le commissaire le laisse partir. Pierre a honte, oui, a honte. Pas de sa fugue, mais que l'on sache son secret. Et puis, qui peut comprendre cet amour qui ne se dit pas ? Qui peut comprendre la vie qu'il a menée ? Qui peut comprendre qu'on l'a tué à 6 ans, le violent ? Personne. Parce que personne ne se soucie de le comprendre. On le juge juste par ses gestes et non par ce qu'il est et a vécu. Lui n'a pas le droit de faire de créer un peu de trouble, de fuguer pour aller voir un ami, mais les autres peuvent lui violer son enfance, le reste de sa vie. Oui, parce qu'eux sont honnêtes. Lui, ne pense, on pense qu'il est, comme son père le pense, un fourbe et un pas franc. Et ce satané médicament qui n'agit pas. On le mène dans le bureau du commissaire. Pièce sombre, l'homme est petit, chauve, il dit. Tu as figué ? Oui, bien. Qu'est-ce que tu cherchais à faire, ce garçon ? Rien. Pierre est fatigué. Il a mal. Il a sommeil. Et puis cet homme qui sait des choses sur lui, le commissaire lui dit. Je vois. Tu vas faire une déposition. Après, tu iras chez le juge qui décidera si on doit faire de toi. Assieds-toi. Un autre flic, sur notre table, a une machine à écrire. Étape. Pierre répond pas à ses questions, puis il est fatigué. Il ne dit pas pourquoi il est fugué. Pourquoi il voulait voir ce jeune garçon? Il répond comme ça. Le commissaire n'insiste pas. Il s'en fout de toute façon. C'est l'affaire du juge. Il signe. Il fait signer Pierre. Puis on le sort du bureau. On le remet au rez-de-chaussée et on le fait asseoir sur un banc. Là, assis, à sommeil. Il s'allonge. Et le bain est très dur, il ne peut pas dormir. Pourtant, il cherche à dormir. Sa tête est vide. Il ne pense plus à ce qui lui est arrivé ou ce qui va lui arriver. Il ne pense à rien. Le lendemain matin, on lui mène son petit déjeuner qui trouve bon malgré l'amertume, la mauvaise odeur qu'il a dans la bouche. Pierre vit comme dans un brouillard. Et comme il a l'habitude malgré lui, il se fond dans le décor et le monde où il est. Il pourrait rester des années là-dedans et même qu'on l'oublie, que ça ne le gênerait pas du tout, bien au contraire. Durant toute la journée et même une partie de la soirée, il assiste au spectacle invisible parce que personne ne fait attention à lui. Il assiste à la vie du commissaire, du commissariat. Le va-et-vient, les plaintes de toutes sortes. Il entend même ce que l'on dit dans le bureau d'un commissaire qui est au rez-de-chaussée. Des putes, des clodos. Même des gens qui demandent à être enfermés pour rester au chaud et manger. Un homme qui se plaint que son meilleur ami a voulu séduire sa femme. Et en plus de ça, c'était un aveugle. Je l'ai invité chez moi. Je lui ai fait tout ce que j'avais. Et voilà ce qu'il me fait. Le commissaire du rez-de-chaussée, un petit gros à lunettes, bon enfant. Il sort souvent de son bureau, bientôt à la retraite, et dit qu'il sait qui a tué Madame Truc, mais il n'arrive pas à avoir de preuves. Il ressemble un peu à l'inspecteur Bourrel, mais il n'a pas encore dit, mais c'est bien sûr. Tout ceci rend humain la police. Oui. Même ceux qui l'ont mené là. Et ce père, comme il est laid. Et... arrogant. Il doit être anéanti avec sa femme et son fils et parler durant le repas d'une façon dédaigneuse de ce pauvre petit mal habillé et pas de leur monde. Tu te rends compte, il a osé venir jusqu'à nous. Enfin, c'est ce que pense Pierre. Sûrement que le père est moins insupportable ou antipathique que ça. Lui, Pierre, veut être oublié et veut tout oublier, même son amour. Les heures passent comme ça. Il fait nuit. Dans le commissariat, il fait tellement sombre qu'on n'y voit pas grand-chose. Pierre est encore dans les vapes à cause du médicament. Il se laisse aller. Puis dans la soirée, un agent vient le chercher. Viens. Et ils sortent du commissariat. Et une fois dehors, ils prennent une voiture. Paris la nuit. Pierre demande, nous allons voir le juge. La voiture s'est arrêtée devant un grand édifice ancien qui doit être le palais de justice. Ils y rentrent. Long couloir, des gens qui vont et viennent, des agents, des avocats. Un jeune homme de taille moyenne, chantin, casquette et d'habit de garde républicain à peu près. Son habit lui va à merveille, va vers eux. Sa veste est bien centrée, son pantalon bien pris et une rayure rouge sur les jambes de pantalon. Sa casquette est de belle forme. Le flic lui donne une pochette. Voilà, merci. Le policier se retire. Le jeune homme dit à Pierre, « Veuillez me suivre. » Il ouvre une petite porte et... lui fait suivre un long couloir qui semble être comme un couloir de cave. Pierre suit le jeune homme. Malgré lui, il le trouve très beau et jeune. Son costume montre un corps parfait. Son visage est beau et doux. Pierre se sent très attiré par lui. Le garde lui demande « Qu'avez-vous fait ?» Pierre lui dit « Rien, j'ai voulu voir un ami. » Le garde ne dit rien. Pierre est très troublé par lui. Il aimerait toujours être près de lui. Le garde le guide tout le long de ce long couloir et où ils n'ont été que tous les deux. Et ouvre une autre porte. Et là, c'est la foule, des gens qui vont, viennent. Je garde le fait asseoir sur un banc. Il dit, ça va bientôt. Être à vous, vous pourrez passer chez le juge. Pierre n'est pas pressé. Il aimerait rester près de lui, toujours. Enfin, un autre garde lui fait signe de venir. Et on fait entrer Pierre chez le juge. Il est habillé en civil, petit, gros, lunettes, foutoir sur son bureau, sur sa table aussi. Le garde lui donne la pochette. L'homme la lit. Sans regarder Pierre, il lui demande « Vous avez... Tu es venu à Paris, pourquoi ?» Voir une personne. Pourquoi ? Comme ça, le juge dit. Retourne chez tes parents. Et on fait sortir Pierre. Le juge ne l'a même pas regardé une seule fois. Le gobeau garde a disparu. Un agent le mène vers la sortie du palais de justice. Et dans une voiture. Et la voiture roule dans Paris. Pierre est triste. Pierre est triste. Triste d'avoir perdu le beau garçon. Il a ressenti une attirance, mais il ne sait pas ce que c'est. Il ne se rend pas compte ce que c'est quelque chose de sexuel. Il ne sait pas que l'on peut désirer un être du même sexe. Ça n'existe pas. Il n'a pas fait le lien entre son désir et ce qu'il représente. C'est plutôt... son ignorance ne lui a pas montré la chose non voilée. Le jour où il sera, c'est-à-dire où il pourra donner le nom de ce qu'il ressent, ce sera pour lui l'horreur, la peur. Ce qui fait peur, ce n'est pas ce que l'on ressent, mais le mot qui désigne ce que l'on ressent. Parce qu'il qualifie ce que l'on ressent, le met dans une case aux yeux de soi et des autres, ce qui fait que l'on peut être jugé et se juger de ce que l'on ressent. La Pierre n'en est pas là. Et ceci malgré tout ce qui lui est arrivé depuis l'âge de 6 ans. Ce qui lui est arrivé a dû bloquer certaines choses. Un certain développement pour ainsi dire du savoir sexuel, comme ça a bloqué d'autres choses. C'est pour ça qu'il est devenu timide, etc. Pierre est mené dans un endroit qui a l'air d'être un pensionnat. C'est vieux, là aussi. Il y a des femmes en blouse de toutes les couleurs qui semblent être des femmes de ménage. Le lieu est étrange. C'est un mélange d'école, de pensionnat et de débarras. Une femme fait entrer Pierre. Il y a des douches qui donnent dans un très grand dortoir. Avec des lits d'hôpitaux peints en vert, comme tout le reste. Les lits sont déposés tout le long des murs. Il y a des garçons de tout âge qui sont au lit ou qui discutent assis sur le lit. La femme nous montre un lit qui est près de la sortie et à côté des douches. Pierre s'assoit sur le lit. Ça ne le gêne pas d'être là. Il est au milieu de jeunes garçons, plus jeunes que lui, à peu près de son âge. Une femme en blouse, qui est en train de laver des petits à la douche, lui demande tout naturellement de l'aider. Pour essuyer avec une serviette les petits. Pierre, un peu gêné, essuie les enfants qui ont dans les 6 ans à peu près. Il le fait gauchement. Un des enfants qui les suit, cela malgré lui se met à bander. Pierre se sent gêné d'avoir donné cette réaction à ce petit. Il prend le petit qui bande, le dépose sur la table pour que la femme puisse s'habiller. Une fois que c'est fini, il retourne se coucher. Des garçons viennent le voir et lui demande qui il est et pourquoi il est là. Il dit qu'il est de Lyon. On lui dit que c'est pas mal ici. Ils ont l'habitude. On lui demande s'il est de l'assistance. Il répond que non. On est gentil avec lui. Puis Pierre se trouve seul. Il entend plus loin un groupe de garçons assis sur le rebord du lit d'un autre. L'autre dit qu'il aime bien Claude François. Les autres rient. On lui demande s'il aurait aimé aller avec lui. Claude François avec ses jambes arquées. Ça crée des rires et Pierre croit comprendre. Qu'on fait des choses aux jeunes garçons. Puis, Pierre s'est endormi. lendemain matin, après s'être levé, c'est le petit déjeuner dans une grande pièce avec une table en bois. Puis, il a été mené dans une cour. Quelques jeunes s'amusent. Lui s'assoit sur des marches et regarde les autres jouer. Il lui semble qu'il est revenu un enfant et qu'il est à l'école. S'il pouvait rester toujours comme ça, ici, ce serait très bien. À midi, le repas dans la salle à manger. Il y a un poste de télévision. Pour lui, ça lui paraît bizarre de retrouver la télévision et les 11 vitraux de présenter le journal de midi. N'aime pas, ça le rappelle trop sa famille. Puis la journée se passe comme dans un brouillard. Personne ne lui dit rien. Mais pas les femmes qui s'occupent d'eux. Les garçons lui sourient et c'est tout. Le soir après le repas du soir, on mène les jeunes à la salle de télévision qui est en haut. Ce soir, il y a une dramatique avec le carré blanc. On discute sur pourquoi il est interdit aux jeunes de voir cette émission. Pierre ne regarde pas. Télévision égale famille. Puis c'est le coucher. Pierre se sent bizarre. L'émotion et tout ce qui lui est arrivé lui reviennent. Il voit tout trembler, tout trouble et tremble, a des difficultés à respirer. Les élèves accourent à lui, une femme aussi. Elle le regarde. Vite, va chercher quelque chose. Revient et lui fait boire. Il s'en retourne. Pierre se sent mieux. Les garçons lui demandent s'il est souvent comme ça et qu'il faut profiter d'être là pour se faire soigner. On est gentil avec lui. Il est ému par ces jeunes qui s'inquiètent de lui. Il vit tout ça comme dans un brouillard. Comme dans un brouillard. Le lendemain matin, les enfants lui demandent s'il va mieux. Lui aimerait toujours rester là. Oui, toujours rester là. Mais une femme vient lui dire, avant qu'il se lève, qu'une accompagnatrice vient te prendre pour te ramener à Lyon. Là, c'est l'horreur. Lyon, cette ville dont il ne peut s'échapper, qui le rappelle toujours. Et Lyon égale famille. Que vont faire ses parents, sa mère? Il aimerait rester ici. Il est très bien ici, mais n'ose pas le dire. Ça ne se fait pas de dire que l'on ne veut pas rentrer chez ses parents. Là, la honte, la police. Elle a dû leur dire ce qu'il a fait et le pourquoi. Tout dévoiler. La police lui a rendu ses papiers. Et il voit qu'ils y sont. Il lui semble qu'ils sont bien jaunes, jeunes et d'un autre monde. Dans la journée, on vient chercher Pierre à la cour. On le mène à une femme forte, cheveux gris, un père gris, parapluie, visage mémé, cheveux gris et lunettes. Elle lui dit « Je suis ton accompagnatrice. Nous allons voyager ensemble. Viens. » Il suit cette femme qui est plus petite que lui. Elle, une accompagnatrice, elle sera incapable de se défendre. Comment ferait-elle pour accompagner des voyous? Il pourrait, s'il le voulait, la lâcher. Et ils sortent de l'établissement. Le faire entrer dans un taxi. Dit au chauffeur, gare de Lyon. Et le taxi se met en route. Paris, lugubre, il pleut toujours. On ne peut pas fuir sa destinée. Elle vous ramène toujours à votre place où elle a voulu que vous soyez. Il y a des actes qui vous marquent toute votre vie. Vous êtes marqué au fer rouge. Pierre sera toujours un inadapté à la vie, un timide qui doit toujours cacher ses désirs, ses sentiments, qui aura toujours peur des autres, que l'on sache qui il est, ce qu'il ressent, toujours, toujours se cacher des autres, ne jamais être soi. Pourquoi n'a-t-il pas le droit d'être heureux, d'aimer, de désirer? Parce qu'il a été victime à 6 ans et que c'est lui qui doit payer ce crime à perpétuité, lui la victime. Le taxi roule. Pierre ne pense plus à quoi bon. On pense pour lui. Tout est fini, même ses rêves. Il ne lui reste plus rien. Sa vie est déjà arrêtée. Il a fait ce qu'il a pu pour essayer d'être heureux. Il n'a pas réussi. Maintenant, plus rien n'a d'importance. Il sait ce qu'il attend à Paris. Ils arrivent à la gare de Lyon. Avant de descendre, elle paye et demande un reçu. Elle lui dit, vous n'avez jamais eu d'accompagnatrice? Non. Une fois qu'il lui fait les papiers, ils sortent du taxi, dans lugubre. Pierre déteste Paris. Il lui est arrivé que des ennuis. Il se dit qu'il ne reviendra plus jamais dans cette ville infâme. La gare, toujours aussi sale et pleine de monde. Les gens ne font que voyager. Ils vont prendre leur ticket, ils attendent le train. Je dis... que personne ne sait qui elle est. Elle pourrait être sa grand-mère, c'est mieux que des flics. Le train arrive, ils rentrent dans un compartiment. S'assoivent l'un côté de l'autre. Une femme et un charmant petit garçon viennent s'asseoir en face d'eux. Pierre se dit, j'aurai au moins un beau visage à regarder. La femme semble être la grand-mère du petit. Et l'accompagnatrice, elle est l'accompagnatrice, semble avoir le même âge. Jean Mémé. Thank you. Le train se met en route. Pierre ne dit rien. Il regarde le petit garçon qui ne fait rien. La femme ou petit dit à la compagne artiste. Je suis la mémé du petit. Je le ramène à Lyon. Il a passé quelque temps chez moi. Et elle parle de choses sans importance. Pierre ne les écoute pas et regarde le petit. La mémé du petit dit. L'accompagnatrice, oui. J'ai tout de suite vu. Pas trop dur,
non.
Et celui-là, je le ramène chez ses parents. Ils ont toujours des corps très particuliers. Le pauvre petit. Eh bien. Lui, ça va? Elle fait oui. Il doit être content de rentrer chez lui. Oui, je crois. Pierre se moque de tout. Sa vie est morte une deuxième fois comme à 6 ans. Il a envie de quitter ce monde laid. Il a envie de pisser aussi. Demande, j'aimerais aller aux toilettes. La vieille lui dit, merci. Elle continue à discuter. Pierre va aux toilettes. Il s'est dit qu'il pourrait fuir comme ça. Personne ne le surveille. Il va au WC et puis, tristement, s'en retourne à sa destinée. On ne peut pas lutter contre son destin. La vieille trouve normal qu'il soit revenu. Elle fait peut-être partie de l'équipe du destin. Le trajet est long, mais Pierre aimerait que ça durera éternellement. Hélas, hélas, Lyon Perrache. Pierre est moins surpris de se retrouver là. Parce que son séjour à Paris était moins long. Et puis, il déteste autant Paris que Lyon. On quittait la gare. Pris d'un taxi sur les bords du Rhône. Pas bien loin de Perrache, le taxi s'arrête devant un immeuble neuf de plusieurs étages. Et sortent du taxi. Et entrent dans l'immeuble. Prennent l'ascenseur pour monter à l'étage. Là, long d'un couloir de porte, c'est blanc et clair. La femme à un bureau. Il y a plusieurs messieurs, elle dit à l'un des hommes, voilà, je vous l'ai amené. Ça s'est bien passé? Oui, très bien, merci. Elle s'en va. L'homme dit à Pierre, va t'asseoir dans le couloir. Ton père va pas tarder à venir. Pierre Penaud va s'asseoir dans le couloir, sur un banc. Il attend la tête vide, à peur, pourrait s'en aller. parce que personne ne fait attention à lui. Mais non, il reste. Je demande comment va se passer les retrouvailles avec son père. Et il est tout de même content que sa mère ne vienne pas. Avec elle, ça aurait tout de suite été des scènes à n'en plus finir. La gorge serrée. Il a une douleur à la jambe, peut-être nerveuse. L'attente est courte. Il voit arriver à lui, dans le couloir, son père. Pierre se lève timidement. Bonjour, papa. Le père ne dit rien. Le commissaire s'approche et dit au père, « On vous le rend, mais qu'il ne recommence pas. » Et il les laisse. Le père dit, « Viens. » Pierre, très ému, marche difficilement. Il se sent gêné et sent la gêne de son père. Il sait qu'au fond, son père n'est pas mauvais et qu'il est plus ému qu'autre chose parce qu'il ne sait pas comment se comporter avec son fils qui a fait ça. Pierre a envie de pleurer. Il a honte. Sortent de l'immeuble. Pierre marche en boitant un peu. Ce père lui demande « Tu boites ?»«
Oui, c'est nerveux. J'étais pas bien ces derniers temps. C'est sûrement ça qui m'a fait faire ça. »
Il essaie de se justifier, mais son père ne dit rien. Pierre aimerait être vraiment malade. Il boite parce qu'il a voulu et croit qu'il a mal à la jambe gauche. Il a honte, va prendre le car. Dans le car, Pierre se sent très gêné vis-à-vis de son père et aimerait tomber malade. Le car s'arrête en face de l'immeuble, déjà. Ils entrent dans l'immeuble. Pierre monte les étages en boitant plus qu'il ne faudrait. Le père ne dit toujours rien. Il est plus gêné que son fils et peut-être pourrait-il le comprendre, mais sa timidité l'empêche de faire un pas vers lui. Et puis la mère a dû lui dire que ce qu'il a fait était impardonnable. Le père sonne à la porte. C'est la mère qui ouvre en blouse grise. Les fait entrer. Et ferme la porte, sûre d'elle comme toujours, dans son droit comme toujours, comme la vie doit être simple lorsqu'on est comme ça, comme c'est facile de juger les autres et de les voir de haut. Elle dit, « Oh, te voilà enfin. La première fois, j'ai beaucoup pleuré, mais cette fois, j'ai été furieuse. Partir comme ça, tu ne nous aimes pas. Et tout l'argent que tu nous as fait dépenser, ton père a manqué son travail à cause de toi. Tu as volé l'argent de la cantine de ta sœur. Quelle honte! Et la police? Une fois, ça ne t'a pas suffi? Tu ne nous aimes pas. Tu ne nous aimes pas. Nous n'avons plus confiance en toi. La première fois, on t'a pardonné. Mais là, et pourquoi es-tu parti?
Père, Pierre ne sait que dire. Il a la gorge serrée. Et puis, elle est dans son droit. Je sens malgré tout, coupable. Mais que dire, que faire? Elle lui dit, va dans la salle d'eau, tu es arrosé. Demain matin, tu vas travailler. Pierre Penaud, va dans la salle d'eau, tu es arrosé. Il a honte. Il entend sa mère crier, il ne nous aime pas, il ne nous aime pas. Pierre se sent gêné. Il aimerait lui dire que non, qu'il n'est pas parti parce qu'il ne les aimait pas. Non, qu'il n'est pas parti parce qu'il ne les aimait pas. La gorge serrée. Il se rase. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Passion intérieure, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.